Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. Le CSSD envisage de présenter la candidature de Vladimir Špidla à la présidence de la République. Le nouvel ambassadeur du Vatican à Prague a présenté ses lettres de créance. Et puis en football, les joueurs du Victoria Plzeň sont déjà en Catalogne pour affronter le Barça mercredi soir. Les différents partis de la scène politique tchèque discutent de leur potentiel candidat à la présidence de la République en 2013, bien qu'on ne sache pas encore si le scrutin sera indirect ou pas. Du côté de l'ODS, Miroslava Němcová et Přemysl Sobotka tiennent la corde. Le parti Top 09 soutient son chef Karel Schwarzenberg. Et selon le site d'information idnes.cz, le parti social-démocrate, CSSD, choisira son candidat au printemps prochain. D'après le site, l'ancien Premier ministre et eurocommissaire Vladimir Špidla ferait partie des potentiels candidats. Lors de la dernière élection en 2008, le CSSD avait soutenu la candidature du professeur d'économie Jan Švejnár, candidature présentée par les Verts. Le nouvel ambassadeur du Vatican à Prague, Giuseppe Leanza, a présenté ses lettres de créance aujourd'hui au président tchèque Václav Klaus. Giuseppe Leanza, avant en poste à Dublin, avait été rappelé pour des consultations après des critiques acerbes du gouvernement irlandais sur la gestion d'un scandale pédophile par l'Église catholique. Le Premier ministre irlandais avait accusé le Vatican d'avoir entravé les enquêtes après la publication d'un rapport sur des actes pédophiles commis en 96 et 2009 par 19 prêtres du diocèse de Cloyne dans le sud de l'Irlande et avait exigé une réponse du Vatican. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères avait de son côté assuré que le transfert à Prague du nonce papal était sans relation avec cette polémique. Une passante est décédée lundi matin à Olomouc en Moravie suite à l'effondrement d'une toiture. Les gravats ont recouvert le trottoir de la rue du 8 mai, une des artères principales de la ville. Une dizaine de personnes ont dû être évacuées par les pompiers de la maison sinistrée. La victime, âgée de 78 ans, est décédée sur place. Une partie de la circulation a été perturbée. La danse avec le festival Golden Prague Zlata Praha qui accueille lundi soir au palais Joffin Angelin Prejocaj, chorégraphe français d'origine albanaise, reconnu dans le monde entier. Le public tchèque a eu l'occasion de voir son spectacle Blanche-Neige en 2008 au Théâtre National. Le festival Zlata Praha existe depuis 1964 et présente les meilleurs programmes et films de musique et de danse mondiaux, tous genres confondus. Du sport avec, je vous le disais, en titre du football et l'équipe du Victoria Plzeň, championne en titre de République tchèque, qui est en déplacement pour un match contre l'un des meilleurs clubs du monde, le FC Barcelone. La rencontre se déroulera en Catalogne, mercredi soir dans le cadre de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le Barça viendra en République tchèque le 1er novembre pour le match retour qui se déroulera dans la capitale. Pour les joueurs tchèques, dont le jeune Václav Pilař, affronter Lionel Messi et les siens sera une expérience inoubliable. La météo pour finir avec mardi, encore une journée ensoleillée avant l'arrivée d'une dépression mercredi. Les températures devraient varier entre 9 et 14 degrés pour les maximales. Pour plus d'informations, c'est sur le site de Radio Prague, www.radio.cz. Et dans une poignée de secondes, c'est Magdalena Hrozinková pour la suite de notre programme en français.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et merci d'écouter Radio Prague. L'historienne de l'art et protectrice de la culture tchèque en France, Jana Klavry, a été distinguée vendredi dernier par le prix Gracias Agate. Cette récompense a déjà été attribuée par le ministère des Affaires étrangères à quelques 200 personnalités qui contribuent à la bonne renommée de la République tchèque dans le monde. Vous entendrez Jana Klavry dans cette émission. Samedi dernier, les indignés se sont fait entendre aussi à Prague. Bien que le nombre de manifestants ait été beaucoup moins élevé que dans les autres villes du monde entier, reportage de la manifestation pragoise, ce sera dans quelques minutes à la fin de notre programme. Nous ferons le bilan de l'actualité sportive de ces derniers jours. Pour la 15e année consécutive, le ministère des Affaires étrangères a attribué les prix Gracias Agit aux personnalités tchèques et étrangères qui ont contribué dans leur vie au rayonnement et à la bonne renommée de la République tchèque dans le monde. Parmi les lauréats de l'année 2011, récompensés vendredi dernier par le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg, figure Jana Klavry, une historienne de l'art franco-tchèque, spécialiste du XXe siècle. Jana Klavry s'est exilée à Paris suite aux événements d'août 1960. Elle se souvient.
Je travaillais à la galerie Spala. C'était une galerie qui présentait les artistes vraiment contemporains. C'était avec M. Chaloupetsky, qui était un critique d'art très connu en France. Et puis les Russes ont occupé la galerie. Il n'était pas question que ça continue. Et on m'a même recommandé de partir, au moins pour quelque temps, avant qu'on verra comment ça va se passer.
Et vous parliez français? Vous connaissiez la France?
Un peu, oui. J'étais en France. J'ai déjà lié les contacts parce que j'ai voulu présenter l'art français à la galerie Spala. Donc, je ne suis pas allée dans un pays complètement inconnu, mais c'était assez difficile au début.
En France, le parcours professionnel de Jana Klavry est lié au centre Georges Pompidou, où elle a organisé de nombreuses expositions d'artistes tchèques. Par son intermédiaire, plusieurs galeries européennes ont pu acheter des œuvres d'art tchèque. Le centre Pompidou, qui abrite aujourd'hui plus de 200 œuvres d'artistes tchèques, a réalisé ses premiers achats entre 1979 et 1981. Jana Klavry évoque la difficile collaboration avec les autorités communistes.
Ça se passait assez mal. On a fait le projet avec l'organisme qui s'appelait Artcentrum, qui s'occupait d'exportation des œuvres tchèques à l'étranger. Et on leur a donné une liste des artistes et on leur a dit que s'ils vont rayer un artiste, s'ils vont barrer un artiste, que l'achat ne se réalisera pas. Et donc il y avait vraiment une liste des artistes qui n'avaient pas droit d'exposer en Tchécoslovaquie à l'époque. Ils ont accepté parce qu'ils avaient besoin de l'argent. Et comme on a payé toute la somme immédiatement, ça s'est passé comme ça. Seulement, 2 ans plus tard, on a fait une exposition de toutes ces œuvres au centre Pompidou. Entre-temps, il y en avait quelques-uns qui ont émigré. Et il y avait après une tollée des autorités tchèques contre le centre, contre moi évidemment, contre tout le monde qui a participé à cette action. Donc, même contre les artistes à Prague aussi, il y avait des représailles.
Jana Klavry vit aujourd'hui à cheval entre Prague, Paris et la Dordogne, région où elle continue à promouvoir la culture tchèque, cette fois-ci par le biais du cinéma. Mais pour elle, les périodes de vifs échanges culturels entre les deux pays sont déjà passées.
Surtout après 68, il y avait une possibilité de réaliser beaucoup de choses dans la culture. Et tout le monde était ouvert à présenter les artistes, traduire les livres. Donc c'était vraiment... Seulement il fallait profiter vite de la situation. Parce qu'il y avait un autre événement qui a couvert l'événement de Prague. Et la même chose, c'était après 89. Il fallait à nouveau profiter vite de la révolution de velours. Et faire des expositions, faire des traductions, montrer la République tchèque par tous les moyens.
C'était l'historienne de l'art Jana Klavry, lauréate du prix Gracias Agit. Le mouvement des indignés n'a pas pris à Prague. Ils étaient tout au plus 200 samedi à s'être réunis à l'appel de l'association Skutečná demokracie, tek la démocratie réelle, maintenant l'antenne tchèque du mouvement, pour protester notamment contre les réformes mises en place par le gouvernement. Jean-Sébastien Letton a assisté à la manifestation pragoise.
Les manifestations se sont déroulées dans plus de 700 villes. Cette vague mondiale est le relais du mouvement espagnol du 15 mai, né à Madrid au printemps dernier et appelé mouvement des indignés. Leur revendication est orientée tout d'abord contre les élites politiques, économiques et notamment la haute finance. Après les succès européens rencontrés à Madrid et Londres, les indignés ont également gagné New York. Le meeting pragois a donc débuté sur la place de la République, avec une lecture du manifeste en espagnol puis en tchèque, sous une importante couverture médiatique. Le petit cortège a ensuite pris la direction de Hradčany afin de rallier un autre groupe de manifestants. Le happening devait se dérouler toute la journée, avec concerts et animations. Et certains manifestants avaient décidé de camper sur place afin de reprendre le dimanche matin. Radio Prague a interrogé Vladimir Nindel, militant ayant prononcé le discours d'ouverture de la manifestation, activiste de Skutečná demokracie TED, ainsi que de l'association Pro-Alt et du mouvement humaniste. Vladimir Nindel n'a pas semblé inquiet de la faible participation.
Comme nous sommes au tout début, je pense que c'est un succès, que le mouvement va continuer et se développer. Une action aura lieu ici samedi prochain. Une autre action se déroulera le 17 novembre aux côtés de Pro-Alt, au pied de la statue sur la place Venceslas.
L'unique bannière du cortège portait l'inscription « Non à la corruption ». Il semble que le mouvement tchèque soit également ancré au sein des préoccupations proprement nationales. Vladimir Nindel.
Ici, beaucoup de choses ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Le gouvernement fait plein de réformes, des réformes dans les domaines fiscal, social, de l'éducation, des retraites et je ne sais quoi encore. Avant les élections, il n'a pas dit quel type de réforme il allait faire, hormis le parti Top 09. Sans tenir compte des électeurs, des citoyens, le gouvernement a fait beaucoup de choses que les gens ne souhaitaient pas.
Cependant, dans les pays d'Europe occidentale comme l'Espagne, un tel mouvement est bien souvent relayé par la jeunesse, située traditionnellement à gauche. Les thèmes abordés par les indignés relèvent, eux, plutôt d'une sensibilité social-démocrate. Or, en République tchèque, les thématiques dites de gauche sont souvent rejetées. Cela est notamment le cas chez les jeunes, qui l'année passée, lors des élections étudiantes, avaient majoritairement voté pour Top 09, le parti néolibéral de Karel Schwarzenberg. Ainsi, cela pourrait peut-être expliquer l'échec du mouvement.
Le terme socialisme a été discrédité chez nous pendant plus de 40 ans. Mais si l'on traduit le socialisme en un système où les gens fraternisent et s'aident mutuellement, sont solidaires, alors pourquoi pas?
Malgré tout, les revendications démocratiques et la couverture médiatique du mouvement ne semblent pas avoir suffi à transformer la place de la République en Puerta del Sol.
Football, tennis et cyclisme figurent aujourd'hui au programme de notre rubrique sportive. En football, tout d'abord, deuxième de justesse de son groupe malgré la faiblesse de ses prestations, la République tchèque affrontera le Monténégro à la mi-novembre lors des barrages qualificatifs pour la phase finale de l'Euro 2012. Un duel qui s'annonce indécis. En tennis, après son succès à Wimbledon, difficile à digérer, Petra Kvitova a retrouvé le chemin de la victoire en remportant le tournoi de Linz. De bon augure avant les deux grands derniers objectifs de sa fin de saison, le Masters et la finale de la Fed Cup. Et puis en cyclisme, la Coupe du monde de cyclocross a redémarré en République tchèque, une première mitigée pour le double champion du monde Zdeněk Štybar. La rubrique sportive vous est présentée par Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
On commence avec du football et ce sera donc le Monténégro. Pas de Bosnie-Herzégovine ni surtout de Turquie, les deux équipes les plus redoutées avant le tirage au sort effectué à Cracovie jeudi dernier. Pas non plus d'Estonie, son quatrième adversaire potentiel, mais le Monténégro. Lors des barrages pour le championnat d'Europe 2012, l'équipe de République tchèque de football affrontera une formation dont elle ne sait pour l'heure pas encore grand-chose, si ce n'est qu'elle a elle aussi terminé à la deuxième place de son groupe, derrière l'Angleterre mais devant des pays comme la Suisse ou la Bulgarie. Tête de série lors du tirage au sort, la République tchèque, qui a finalement arraché son billet pour les barrages en battant l'Estonie 4-1 mardi dernier, pouvait sans doute plus mal tomber. Mais face à un Monténégro qui a quand même fait deux matchs nuls contre l'Angleterre lors des éliminatoires, les hommes du sélectionneur Mihal Bilek ne partiront pas pour autant nécessairement favoris, ce dont est bien conscient l'entraîneur adjoint František Komňacký.
Ce n'est pas un tirage défavorable, en aucun cas. Jouer la Turquie aurait été beaucoup plus difficile. Mais les résultats obtenus dans leur groupe, leurs deux matchs nuls contre l'Angleterre, leur victoire contre la Suisse et leur deuxième place, démontrent que les Monténégrins ont des arguments à faire valoir. Ce serait donc très naïf de notre part de les sous-estimer.
Un avis également partagé par le défenseur tchèque Zdeněk Pospěch.
Je pense que c'est un bon tirage au sort, que les deux équipes ont les mêmes chances de qualification. Le Monténégro possède dans son effectif plusieurs joueurs qui évoluent dans des clubs italiens, comme l'attaquant de la Juventus, Vucinic. Ce sera donc un adversaire compliqué, et la décision se fera sur des détails comme souvent dans les barrages. Pour nous, l'important sera d'abord de bien négocier le match, aller à la maison. On pourra leur dire qui est le favori, mais en attendant, c'est vraiment du 50-50.
Si les Tchèques sont donc plutôt soulagés d'avoir hérité d'un adversaire qu'ils estiment plus abordable que l'imprévisible Turquie ou la Bosnie-Herzégovine d'Edin Dzeko, les Monténégrins ne sont eux non plus pas mécontents de croiser le fer avec une République tchèque dont les coups d'éclat ont été bien rares ces dernières saisons. En tous les cas, comme l'a confié à l'issue du tirage au sort le sélectionneur monténégrin Branko Brnovic, la République tchèque ne constitue pas un obstacle insurmontable sur la route de la Pologne et de l'Ukraine où se tiendra l'Euro 2012.
Le tirage idéal pour moi aurait été l'Irlande, car nous les connaissons en ayant déjà joué deux fois contre eux. Mais le plus important est d'avoir évité le Portugal, car c'est l'adversaire que nous redoutions le plus, et de recevoir pour le match au retour. Je ne sais rien encore des Tchèques, nous allons seulement commencer à nous informer. Mais je pense que c'est un adversaire dans nos cordes, nous avons les moyens de nous qualifier.
Née de la dissolution de l'équipe de Serbie et Monténégro après la Coupe du Monde 2006, la sélection actuelle monténégrine n'a encore jamais dans sa courte existence participé à la phase finale d'un grand championnat. Le duel contre la République tchèque constituera donc une occasion historique. Le match aller sera disputé à Prague le vendredi 11 novembre avant très probablement un retour explosif à Podgorica 4 jours plus tard, comme souvent dans les Balkans. Pour ce voyage à risque au Monténégro, les Tchèques seraient donc bien inspirés de prendre quelques longueurs d'avance devant leur public. On passe au tennis. En battant dimanche en finale du tournoi de Linz en Autriche, la Slovaque Dominika Cibulková 6-4, 6-1, Petra Kvitová a remporté le 5e titre de sa saison et le 6e de sa carrière. Désormais 4e joueuse mondiale, la Tchèque a surtout retrouvé le goût de la victoire, 3 mois après son succès en finale de Wimbledon et le premier grand chelem de sa carrière. Tout cela à un moment clé alors que se profilent ses deux derniers grands objectifs de cette saison 2011, le Masters qui réunira les 8 meilleurs mondiaux la semaine prochaine à Istanbul et la finale de la Fed Cup les 5 et 6 novembre en Russie où Petra Kvitová sera la leader de l'équipe tchèque. À Linz, Petra Kvitová a aussi renoué avec le niveau de jeu qui a été le sien durant la première moitié de l'année jusqu'à Wimbledon, en disposant successivement à partir des quarts de finale de la Slovaque Daniela Antuchova, de la Serbe Jelena Jankovic et encore de Dominika Cibulková. La Tchèque a de nouveau battu 3 joueuses appartenant au top 25 mondial et réalisé un parcours rassurant avant l'entame du Masters où elle comptera parmi les candidates au titre. Oubliez donc les 5 défaites en 10 matchs concédées depuis la finale de Wimbledon ou encore l'élimination au premier tour de l'US Open. C'est une Petra Kvitová qui a fait le plein de confiance qui est de retour. Et puis on termine avec un mot de cyclisme. Alors que la saison sur route touche à son terme, la Coupe du Monde de cyclocross a elle débuté dimanche à Pelzeigne, en Bohême de l'Ouest. Courue sur un terrain sec, cette première manche a été remportée par Sven Nys. Le champion de Belgique a devancé dans la dernière ligne droite son compatriote Kevin Povels, Zdeněk Štybar prenant la troisième place avec 3 secondes de retard. Double champion du monde en titre et vainqueur du classement général de la Coupe du Monde ces deux dernières saisons, le Tchèque était quelque peu déçu de ne pas avoir fait mieux devant son public. On écoute Zdeněk Štybar.
Je pensais avant le départ que je n'avais pas la forme pour lutter pour la victoire, mais je me suis senti de mieux en mieux au fil des tours. J'ai commencé à y croire quand j'ai vu que Sven Nys n'était pas au mieux vers la mi-course. Malheureusement, celui-ci a aussi permis d'économiser des forces pendant 3 tours, tandis que je faisais la course en tête. Sur la fin, j'ai fait une erreur de débutant en lui laissant de la place pour me doubler. Si je lui avais fermé le passage, j'aurais sans doute gagné. Cette erreur m'a coûté la victoire. D'un autre côté, Sven Nys a utilisé toute son expérience et nous a donné une leçon. Il nous a montré comment on gagnait des courses dans les arrivées de cyclocross.
La deuxième manche de la Coupe du Monde sera de nouveau disputée en République tchèque dimanche prochain. L'élite du cyclocross se retrouvera cette fois à Tabor, en Bohême du Sud, pour Zdeněk Štybar, passé sur route cette saison sous le maillot de l'équipe belge Quickstep, propriété du milliardaire tchèque Zdeněk Bakala. Il s'agira avant tout d'enfin lancer sa saison, probablement sa dernière, de cyclocross.
C'est la fin, chers amis, du programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention.